Le plus grand danger. S'il n'y avait pas eu de tout temps, beaucoup d'hommes qui considéraient la discipline de leur esprit, leur raison comme leur fierté, leur devoir, leur vertu, des hommes qui étaient offensés et humiliés par tout ce qui était fantaisie et excès de l'imagination, étant les amis du bon sens, il y a longtemps que l'humanité aurait disparu. Au-dessus, planait et plane sans cesse, comme son plus grand danger, la folie prête à éclater. Ce qui est précisément l'irruption du bon plaisir dans le sentiment, la vue et l'ouïe, la jouissance dans les débauches de l'esprit, la joie que procure l'humaine des raisons. Ni la vérité ni la certitude ne sont l'opposé du monde de la folie, mais la généralité est l'obligation pour tous d'une même croyance. En un mot, l'exclusion du bon plaisir dans le jugement. Et le plus grand travail de l'humanité fut jusqu'à présent celui de s'accorder sur beaucoup de choses et de s'imposer une loi des conformités, quelle que soit la vérité ou la fausseté de ces choses. C'est là l'éducation du cerveau que l'homme a reçue. Mais les instincts contraires sont encore si puissants que l'on ne peut en somme parler de l'avenir de l'humanité qu'avec très peu de confiance. L'image des choses se recule et se déplace encore sans cesse. Et peut-être qu'à partir de maintenant, il en sera ainsi plus souvent encore et plus rapidement que jamais. Sans cesse, les esprits justement les plus distingués se raidissent contre cette obligation universelle. Et en tout premier lieu, les explorateurs de la vérité. Sans cesse, cette croyance, en tant que croyance de tout le monde, engendre chez les esprits raffinés un dégoût et une nouvelle concupiscence. Et cette allure lente qu'elle exige pour tout processus intellectuel. Cette imitation de la tortue qui fait autorité ici a elle seule déjà converti en déserteurs les artistes et les poètes. C'est dans ces esprits impatients qu'éclate une véritable joie de la folie, puisque la folie a une allure si joyeuse. Il est donc besoin des intellects vertueux. Hélas, je veux employer le mot qui prête le moins à l'équivoque. Il est besoin de la bêtise vertueuse, d'inébranlable batteur de mesure à l'esprit lent, pour que les croyants de la grande croyance générale demeurent ensemble et continuent à exécuter leur danse. C'est une nécessité de premier ordre qui commande et exige ici. Nous autres, nous sommes l'exception et le danger. Nous avons éternellement besoin de nous défendre. Eh bien, il y a vraiment quelque chose à dire en faveur de l'exception, à condition qu'elle ne veuille jamais devenir la règle. La bonne conscience animale. Je ne me cache pas tout ce qu'il y a de vulgaire dans ce qui plaît dans le midi de l'Europe, que ce soit l'opéra italien, par exemple Rossini et Bellini, ou bien le roman L'aventure espagnole, le plus accessible pour nous dans le travesti français de Gil Blas. Mais je n'en suis point offensé, tout aussi peu que des vulgarités que l'on rencontre durant une promenade à travers Pompéi, et en somme même à la lecture de tout livre ancien. D'où cela vient-il? Est-ce parce qu'ici la pudeur fait défaut et que tout ce qui est vulgaire se présente avec autant de certitude de sûreté de soi que si c'était quelque chose de noble, d'agréable, de passionné, placé côte à côte dans le même genre de musique ou de roman? L'animal a son bon droit, tout comme l'homme, qu'il se meuve donc librement. Et toi, mon cher frère en humanité, tu es toi-même cet animal malgré tout. Voilà qui me semble être la morale de la question et la particularité de l'humanité méridionale. Le mauvais goût a son droit tout comme le bon. Il a même un privilège sur le bon goût dans les cas où il est le grand besoin, la satisfaction certaine et en quelque sorte un langage général, une attitude et un masque immédiatement compréhensibles. Le bon goût, le goût choisi, a par contre toujours quelque chose qui tient de la recherche et de la tentative, quelque chose qui n'est pas certain d'être compris. Il n'est et ne fut jamais populaire. Le masque seul est et demeure populaire. Va donc pour tout ce qui est mascarade dans les mélodies et les cadences, dans les sauts et les éclats de joie du rythme de ces opéras. Et la vie antique? Que pourrait-on y comprendre si l'on ne comprend pas la joie du masque, la bonne conscience de tout ce qui ressemble au masque? C'est ici le bain de repos et le réconfort de l'esprit antique. Et peut-être ce bain était-il plus nécessaire encore aux natures rares et supérieures du monde antique qu'aux natures vulgaires. Par contre, je suis indiciblement offensé pour une tournure vulgaire dans les œuvres du Nord. Par exemple, dans la musique allemande. Il s'y mêle de la honte. L'artiste s'est abaissé devant lui-même et n'a même pas pu éviter d'en rougir. Nous avons honte avec lui et nous nous sentons si offensés parce que nous devinons qu'il croyait être obligé de s'abaisser à cause de nous. Ce pourquoi nous devons être reconnaissants. Ce sont les artistes et surtout ceux du théâtre qui, les premiers, ont donné aux hommes des yeux et des oreilles pour voir et entendre, avec un certain plaisir, ce que chacun est lui-même, ce que chacun a vécu et voulu. Ce sont eux qui, les premiers, nous ont donné la mesure du héros qui est caché dans chacun de ces hommes ordinaires. Eux qui ont enseigné l'art de se considérer soi-même comme héros, à distance et en quelque sorte simplifié et transfiguré. L'art de se mettre en scène devant soi-même. Ce n'est que de cette façon que nous parvenons à nous mettre au-dessus de quelques détails bas qu'il y a en nous. Sans cet art, nous vivrions tout en premier plan et entièrement sous le charme de cette optique qui fait paraître énorme le plus proche et le plus vulgaire, comme si c'était la vérité par excellence. Peut-être y a-t-il un mérite de même espèce dans cette religion qui ordonnait de considérer l'état de péché de chacun avec un verre grossissant et qui faisait du pécheur un grand criminel immortel. En décrivant des perspectives éternelles autour de lui, elle apprenait à l'homme à se regarder de loin et comme quelque chose de passé. Attrait de l'imperfection. Je vois ici un poète qui, comme bien des hommes, exerce par ses imperfections un attrait supérieur à celui des choses qui s'achèvent et prennent une forme parfaite sous sa main. Il tient même l'avantage et la gloire bien plus de son impuissance finale que de sa force abondante. Son œuvre n'exprime jamais complètement ce qu'il voudrait exprimer au fond, ce qu'il voudrait avoir vu. Il semble qu'il ait eu l'avant-goût d'une vision et jamais la vision elle-même. Mais un énorme désir de cette vision est demeuré dans son âme, et c'est de ce désir qu'il tire l'éloquence tout aussi énorme que lui donne l'envie et la faim. Avec lui, il élève celui qui l'écoute au-dessus de son œuvre et au-dessus de toutes les œuvres. Il lui donne des ailes pour monter plus haut que les auditeurs ne sont jamais montés, et, transformés ainsi eux-mêmes en poètes et en voyants, ils ont pour l'artisan de leur bonheur autant d'admiration que s'il les avait amenés immédiatement à la contemplation de ce qu'il a de plus sain et de plus caché, comme s'il avait atteint son but, comme s'il avait vraiment vu et communiqué sa vision, sa gloire à profiter de ce qui n'a pas véritablement atteint son but.